Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Content de revoir ici bien des visages connus, d'autres que je ne connais pas encore. C'est ça la vie de l'Église. Il y a des nouveaux, il y a des plus anciens. Mais nous sommes tous, ce matin, j'espère, dans la paix et dans la joie du Seigneur, et heureux de nous fortifier ensemble à l'écoute de sa parole. J'aimerais que nous ouvrions ensemble l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Luc 11, 5. Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Oh, ne cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée. » Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour t'en donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on frappe, à celui qui frappe, on ouvrira. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, chers amis, de recevoir à l'improviste chez vous de très chers amis que peut-être vous n'avez plus vus depuis si longtemps et qui débarquent chez vous sans crier gare au moment le plus invraisemblable? Il y a des gens qui ont l'air d'arriver juste au moment où on ne s'y attend pas. Au moment où on n'a plus de biscuits à leur offrir, on n'a même plus une tasse de café à leur présenter, parce que toute la réserve est épuisée. Et bien sûr, vu l'heure, le magasin du coin est fermé. Voilà. S'ils le faisaient exprès, ils ne pourraient pas faire mieux. Alors, on est gêné parce qu'on n'a rien à leur offrir. Jésus présente souvent ces paraboles à partir de situations concrètes qui peuvent arriver. Et ici, c'est ainsi qu'il introduit son enseignement sur la prière par cette parabole qu'on a souvent intitulée « La parabole des 3 amis ». Nous allons essayer d'examiner qui sont ces 3 amis pour voir ce que nous pouvons en apprendre. Le premier ami va trouver le deuxième ami pour lui demander 3 pains à prêter parce que c'est le troisième ami qui est arrivé de voyage chez lui. Ceci, on peut penser que ça se passe vers minuit, puisque le deuxième ami nous dit qu'il est déjà couché avec toute sa famille. Voilà. Je suppose évidemment que le troisième ami n'est pas arrivé chez le premier à 6h du soir. Sinon, le premier n'aurait pas attendu jusque minuit pour aller trouver le deuxième. Non, notre troisième ami vient d'arriver à cette heure nocturne où c'est le moment le plus invraisemblable. Le premier ami, il a une réaction remarquable. Malgré cette heure invraisemblable, il n'hésite pas à accueillir le troisième ami et même à déranger le deuxième pour bien l'accueillir. Vous me direz, bien sûr, mais c'était son ami quand même. Bon, d'accord. Mais il le faut quand même une amitié bien forte pour le recevoir comme cela. Allez, posons-nous la question franchement, si on nous faisait le coup, comment nous, on réagirait? Voilà. À 1h du matin, par exemple, on sonne chez vous, on frappe, on tambourine, qu'est-ce que vous faites? Ah. Très bien. C'est le premier cas que vous allez prendre. Vous dormez à point fermé. Et vous n'entendez rien. Avec l'âge, vous êtes peut-être devenu un peu sourd. Bon, hein? C'est le cas de ma femme. Bon, hein? Elle est sourde en tout cas d'une oreille. Mais bon, je suis ancien dans l'église de Charles Brunner et nous avions eu une réunion qui s'est terminée particulièrement tard ce soir-là. Et bon, voilà, tout confiant, je rentre chez moi. Ma femme m'avait mis la chaîne. Parce que chez nous, il y a une chaîne, bon, en plus de la serrure. Alors, j'avais la clé. Bon, donc, j'ouvre la porte, mais impossible d'entrer. La chaîne bloquait. Je sonne, je frappe. Elle n'a rien entendu, hein? Rien du tout. Et c'est pas sa faute, parce qu'en plus, bon, souvent elle dort sur sa bonne oreille. Bon. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû retourner à l'église, heureusement, il y a, dans la salle des jeunes, il y a un canapé. J'ai passé la nuit sur le canapé, et le lendemain matin, je suis rentré chez moi. Voilà. Bon, elle ne l'a pas fait exprès. Hein. Bon, elle était bien désolée de la petite mésaventure. Et désormais, quand il y a conseil d'ancien, je lui apprends, écoute, ne ferme pas la chaîne au cas où, bon, hein. Où ça durerait plus longtemps qu'on ne le pense. Ce ne sait jamais. Hein. Les questions, parfois un peu délicates, ce qu'on a à traiter et qui peuvent prendre du temps. Donc, c'est la première option. Hein. Vous dormez à point fermé et vous n'entendez rien. Il y a une deuxième option. Hein? Vous vous réveillez. Mais vous êtes si bien au chaud dans votre plumard que vous vous dites, non. Qu'est-ce qui peut frapper à cette heure-ci, zut, il a qu'à repasser. Hein? Et vous vous rendormez. Là, vous ne savez pas que c'est votre ami, vous même pas à voir à la fenêtre, voilà, vous vous endormez. La troisième, vous avez le courage d'aller jusqu'à la fenêtre et de voir, bon, tiens, c'est mon ami. Voilà. Il ne se gêne quand même pas celui-là, hein, d'arriver à une heure pareille. Hein. Je veux dire qu'il repasse demain matin, hein, bon, hein, puisqu'il est dans le secteur, il trouvera bien... un hôtel pour loger la nuit, au moins. On ne réveille pas les gens à des heures pareilles, ça ne se fait pas. Ah bon, hein? Même si c'est votre ami, tant pis. Hein? Bon, hein? Et là, la quatrième option, eh ben, pour les plus courageux, vous avez le courage de vous lever, de vous habiller, de descendre, bon, hein? Vous répondez à la fin, attends, j'arrive, bon, hein? Et voilà, vous avez de la disponibilité pour recevoir votre ami tout de suite. L'ami numéro 1 dans la parabole, oui. Il se lève et il va même déranger l'ami numéro 2. Voilà. ça suppose vraiment une amitié solide, ça suppose de la disponibilité, ça suppose du courage, ça suppose bon, une ouverture, hein, une disponibilité pour répondre aux besoins, aux situations même imprévues. L'ami numéro un, normalement, c'est le chrétien, c'est toi, c'est moi. Normalement. Ça ne veut pas dire que nous réagissons toujours à la façon de l'ami numéro un. Mais c'est l'objectif à atteindre. Hein. Toujours prêt, hein, pour reprendre la devise des scouts. C'est aussi, ça devrait aussi être notre devise à nous chrétiens. Ah, l'ami numéro un. Bon, maintenant, l'ami numéro deux, celui qu'on peut toujours aller déranger, même au moment le plus invraisemblable, celui qui répondra toujours. Ben, nous le connaissons, c'est notre Dieu. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui maintient Israël en paix, disait déjà l'Ancien Testament. Pour n'importe quelle situation, à n'importe quelle heure, il est toujours là. Sa disponibilité à nous entendre montre son amour. Sa capacité à nous répondre montre sa puissance. Il n'est jamais pris au dépourvu. On lui demande trois pains, qui a toujours trois pains chez soi. Moi, parfois, quand je vois des pains en promotion, hein, j'en prends trois, ok, on le met au congélateur, mais c'est pas tout le temps, c'est quand ça arrive. Hein, mais Dieu a tout le temps même trois pains. Bon. Parce que l'ami numéro 3 qui vient, apparemment, il n'est pas tout seul, il a peut-être toute une petite tribu avec lui. Bon, hein. Mais n'hésitons jamais à apporter tous nos besoins à Dieu. Il y a des promesses dans le texte. Celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui cherche, trouvera. Celui qui demande, recevra. Réécoutons à nouveau ces promesses. Dieu est toujours prêt à pourvoir. Frères et sœurs, n'oublions jamais. Qui est alors l'ami numéro 3 ? L'ami numéro 3, il représente le monde. Il représente toutes les personnes qui ont pris conscience qu'il leur faut une réponse, qu'il leur faut un refuge, qu'il leur faut un accueil, qu'ils ont besoin de quelque chose qui leur manque et qu'ils ne savent pas où le trouver parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils connaissent l'ami numéro un, sa vie. Et ils se disent qu'en allant chez l'ami numéro un, ils vont peut-être trouver ce qui leur manque. Ils ne le savent peut-être pas, mais ce qui leur manque, c'est l'ami numéro deux, c'est le Seigneur. Bon. Combien de gens autour de nous vivent dans la détresse ? Pas forcément la détresse physique, pas forcément le manque, quoique ça existe aussi, nous le voyons bien. Mais vivre dans la détresse spirituelle et mentale, d'avoir une vie vide, une vie sans espérance, ils ne le diront peut-être pas toujours, mais si nous sommes là sur leur chemin, peut-être un jour s'en ouvriront-ils à nous, surtout s'ils voient que nous avons quelque chose qui nous donne une joie, quelque chose qui nous donne une paix, quelque chose qui nous donne un rayonnement, quelque chose qui nous donne une disponibilité, une ouverture, un amour qu'ils n'ont pas. Alors s'ils perçoivent ça, on peut s'attendre à ce qu'un jour, Et même par surprise, il débarque chez nous pour nous demander de l'aide. L'ami numéro 3 est dans la nuit. Si Jésus dit qu'il vient très tard, c'est parce que, bon, il est dans l'obscurité. Notre monde est toujours dans la nuit. Et malgré les lumières qui illuminent nos villes le soir, pour beaucoup de gens, c'est la nuit. Une nuit peut-être sans repos. En voyage de la vie, peut-être un voyage fatigant. On ne trouve pas la nourriture de l'âme. On ne trouve pas la paix de l'âme. Malgré le matérialisme ambiant, malgré la désaffection apparente des valeurs spirituelles dans notre monde, il y a encore beaucoup de gens qui cherchent. Ils se tournent vers l'occultisme, vers les sectes, vers le sexe, vers la drogue, vers toutes sortes de mauvaises réponses s'ils n'ont pas la bonne. Mais ils sont toujours dans la nuit. Et nous sommes là pour leur dire, tournez-vous vers l'ami numéro 2, tournez-vous vers Dieu. Et bon, la parabole nous montre qu'en pratique, c'est souvent impossible qu'ils se tournent directement vers Dieu, puisqu'ils ne le connaissent pas, le monde ne connaît pas Dieu. Mais le monde nous connaît, nous. Il peut nous voir. Il peut nous faire vivre. Et dans sa recherche, il peut tourner les yeux vers nous pour les tourner ensuite vers Dieu si nous savons l'inviter à regarder là où il faut. Par celui qui peut donner, qui peut répondre à tous les besoins et du corps et de l'âme. Et il le fera quand nous aurons apporté de la part de Dieu cette nourriture, ce repos, cet accueil qu'il recherche, ces trois pains, que Dieu aura accepté de nous confier pour lui. Et parce qu'il a faim, parce qu'il est fatigué, il peut arriver n'importe quand, parce qu'il lui faut une solution. Mais sommes-nous prêts? Quel accueil trouvera-t-il chez nous pour commencer? Chez Dieu, il n'y a pas de problème. Mais chez nous. Vous savez, c'est ces attitudes, ces quatre attitudes que j'ai détaillées tout à l'heure, elles peuvent se retrouver spirituellement dans l'Église. L'Église peut être sourde à la voix de son Seigneur. Autrement dit, elle peut être devenue insensible à la vocation que Dieu lui confie, à la mission que Dieu lui a confiée. L'Église est là pour le monde. Nous sommes passés, nous sommes pour être des témoins. L'Église peut être aussi bien au chaud dans son lit, bien dans ses traditions, bien dans ses habitudes, bien entre nous, tellement bien parfois que quand quelqu'un de nouveau arrive, ça dérange à la limite. J'ai connu une église où les gens n'étaient pas contents parce qu'il y avait trop de nouveaux. Les anciens qui revenaient au culte après une absence de plusieurs années, mais c'est plus mon église, ça je ne m'y reconnais plus. Et ils n'étaient pas contents. Le temple était trop rempli, ça n'allait pas. Je parle de choses vécues ici. Hein. Ça, je ne vais pas citer l'endroit, peu importe. Ça arrive. C'est sont des possibilités si nous ne veillons pas. On passe à côté de situations et de besoins sans rien voir ni sans entendre, ou parce qu'on est devenu sourd, ou parce qu'on ne veut pas, parce qu'on est devenu désobéissant, simplement. Parce qu'on vit pour soi-même, vous voyez, le Seigneur est là, d'accord, on en tient un petit peu compte, mais avant tout, c'est moi qui dirige ma vie, et je ne me laisse pas diriger par Dieu, et je ne suis pas prêt quand Dieu aurait une tâche à me confier. Je n'entends pas quand il me dit « Hé, il y a ceci à faire pour moi, tu veux bien ?» Non, Seigneur, ce n'est pas dans mes plans, désolé. Il y a aussi ceux qui disent « Oh, quelqu'un d'autre pourra le faire. Moi, je ne suis pas capable. Il peut aller à l'hôtel. » Bon, voilà, bon, hein, pour cette messie. Là, ils sont équipés, ils sont professionnels pour le recevoir, ils feront ça mieux que moi. Mais si c'est à toi que Dieu demande, Dieu te donnera les trois pains pour que tu puisses répondre aux besoins. Alors, c'est une question de foi. Tu n'es pas assez équipé, tu n'es pas assez capable. Mais le Seigneur ne peut-il pas mettre dans ta bouche les mots qu'il faut ? Ne peut-il pas pourvoir aux capacités ? Bien sûr, peut-être aussi, c'est peut-être à nous de nous former. Si Dieu te montre que, ok, qu'il t'appelle pour un tel service, pour un tel ministère, il y a peut-être des formations qui existent et qui vont t'aider à t'équiper d'avance. Voilà. Il ne faut pas toujours attendre d'être à la dernière extrémité pour demander à Dieu en urgence trois pains. Quand Dieu aurait pu nous équiper d'avance si nous avions pensé que pour le ministère, il est bon de se former. Chers amis, bon, on n'est jamais assez formé. Moi, j'encourage tous les chrétiens à suivre des formations pour entreprendre des ministères et des services dans des domaines où ils sentent que Dieu, ce serait bien un travail qui serait pour eux. Bien sûr, réfléchissez, priez, ne vous lancez pas à la légère, mais ça vaut la peine de se former. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que l'Écriture dit, on n'a pas lu ce texte, mais c'est dans Proverbe 3, 18, « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. » Or si nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous avons bien sûr de quoi donner. Alors parfois nous sommes pris à l'improviste, bon. Ça me rappelle Néhémie. Vous vous rappelez quand il se trouve devant le grand roi de Perse et que tout d'un coup, le roi lui dit « Mais qu'est-ce que tu demandes ?» Oh, c'est une situation vraiment tendue pour lui parce que bon, c'est un tournant de sa vie. « Je prie le Dieu des cieux. Bon, » bien sûr, il n'a pas fait une longue prière à voix haute. Il s'est adressé à Dieu, il lui a fait une prière SOS. Et Dieu a répondu, hein. Dieu a mis dans la bouche de Néhémie les bonnes paroles et Dieu avait préparé le cœur du roi pour qu'il puisse retourner à l'heure. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Parce que Néhémie était un homme de foi. Dieu a répondu à sa prière d'urgence. Bon, hein. Et voilà. Donc, ne craignons pas d'être parfois pris à l'improviste. J'aime bien dire, nous avons auprès de Dieu un téléphone rouge. Vous savez, bon, entre la Maison Blanche et le Kremlin, bon, hein, quand il y a de la tension, quand on a peur, quoi, quelqu'un appuie sur un bouton qui pourrait déclencher l'apocalypse, bon, hein, les présidents peuvent se téléphoner l'un à l'autre pour trouver la solution en urgence ensemble. Ah. Nous avons auprès de Dieu un téléphone rouge. Il fonctionne tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. N'hésitons pas à en faire usage. Ce qui n'empêche que Dieu agit en général avec des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de la prière d'urgence quand ça va mal, mais qui prient régulièrement, qui ont une vie de prière pour être constamment à l'écoute de Dieu et pour le laisser diriger leur vie. Dieu est là. Il a tout ce qu'il faut en suffisance. Allons puiser. Nous ne le dérangerons jamais. Ce n'est pas forcément seulement pour nous, mais qu'on puisse aussi demander pour soi-même. Mais Dieu aussi a tellement à nous donner pour les autres. Croyons que l'Église peut grandir. L'Église peut se développer parce que Dieu développe les ministères, parce que les chrétiens prient, parce qu'on s'attend à ce qu'il agisse. Notre Dieu n'a pas changé. L'ami numéro 2, il est toujours le même. Nous savons, nous, où le trouver. Alors allons-y. Amen. Et maintenant, je vais, sans abuser de votre patience, vous parler un petit peu d'une mission que Dieu m'a mise sur le cœur, la mission en part. C'est, voilà, c'est l'ami numéro 3, c'est un aspect de l'ami numéro 3, c'est aussi la mission au loin. En part, cette mission est pratiquement encore inconnue en Belgique, mais bon, elle commence à être bien connue en Suisse, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, et bien sûr aussi dans les pays où elle travaille, en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Bhoutan. En part, le mot signifie, c'est une abréviation de deux mots anglais, Empowering Partners. Et je traduis en français, Empowering, c'est difficile à traduire, mais bon, donner la capacité, former, préparer, outiller, rendre capable, partners, les partenaires. Donc c'est une mission qui cherche à donner des capacités à des partenaires. Une mission que je ne connaissais pas du tout moi-même il y a seulement un an et demi. Alors, je vais vous raconter brièvement comment j'ai connu cette mission, parce que déjà en soi, c'est assez extraordinaire. Dans l'église que je fréquente d'habitude à Charleroi-Nord, nous avons eu un couple de nouveaux convertis qui est venu se joindre à nous. C'est déjà très spécial la façon dont ils sont venus. Donc ils sont venus au Seigneur. Ils sont venus au Seigneur au travers d'un autre couple chrétien, mais qui ne fréquentait plus aucune église depuis des années. Des chrétiens sans église, ils continuent à évangéliser. Bon. Ils avaient été amenés au Seigneur dans une église qui est assez sectaire, l'église du Christ de Boston. Enfin, un mouvement très très spécial, qui est très très légaliste, très très dur, très exigeant, mais qui attend de ses membres qu'ils évangélisent abondamment. Alors, ils avaient au moins retenu ça. Maintenant que nous sommes au Seigneur, nous pouvons évangéliser, même si on ne va plus à l'église, on continue à le faire. Et donc, ils ont amené au Seigneur cet autre couple, qui a reçu une Bible, bien sûr, qui s'est mis à la lire, et puis qui a découvert que dans la Bible, il était question de l'église. Et ils se sont dit, bon, nous, en tout cas, il nous faut une église, même si nos amis qui nous ont amenés n'en ont pas, mais nous, on veut en avoir une, puisque c'est mis dans la Bible. Ah. Et c'est comme ça qu'un jour, ils ont débarqué dans une autre église où notre pasteur prêchait, justement, et puis ils sont venus à notre église, voilà, c'est comme ça. Et puis quelques mois après, ils sont venus nous trouver, le conseil des anciens, en nous disant « Chers frères, on aimerait développer dans votre église un nouveau ministère, si vous nous le permettez. » Bon, c'est quoi ? On aimerait créer une boîte à livres. Une boîte à livres, c'est quoi ça ? Ben voilà, en écrivant aux éditeurs chrétiens et aux librairies chrétiennes, on pourrait leur demander s'ils n'ont pas à nous donner des livres qu'ils ne savent plus vendre, parce que, bon, peut-être que le livre a été écorné, peut-être qu'il y a une page qui est déchirée, accidentellement, bref, commercialement, ce n'est plus vendable, mais le livre est toujours lisible, et donc, s'ils peuvent le donner, plutôt que de mettre à la poubelle, ce serait quand même mieux. On est là, hein. Vous pensez que ça va marcher ? Ouais, ça va marcher. Bon, bah, écoutez, essayez toujours, on verra bien. Bon, hein. On n'y croyait pas trop à cette histoire. Mais pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? S'ils ont ça à cœur, laissons-les faire, on verra bien. Et puis en effet, bon, environ un mois après, ils se sont ramenés à l'église avec une voix toute pleine de livres. Ah, vous voyez, hein, bon, hein. Ah bon, ok. Et moi, curieux comme je suis, je suis allé voir ce qu'il faut y avoir comme livre dans cette fameuse boîte. Et c'est comme ça que j'ai découvert un livre qui s'appelle Inouï, écrit par un certain Josie Tcheco. Tcheco, pour moi, ça me disait quelque chose, parce que bon, comme je suis aussi, vous le savez, bon, un spécialiste de l'Orient chrétien, entre parenthèses, mon projet d'édition des actes arméniens pour lequel vous m'avez soutenu, ça continue encore. Bon, merci pour ceux qui ont soutenu ce projet. Et donc, ce nom me disait quelque chose, et donc j'ai pris le livre, j'ai examiné de plus près, et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait en Inde un mouvement spirituel dont l'ampleur était étonnante. Josie l'écrit dans son livre, une fois que j'ai commencé à le lire, c'était tellement prenant que je n'ai pas su m'arrêter. Voilà, bon, j'ai dévoré ce bouquin de bout en bout. Hein. En lisant ce livre, je crois que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, allez, vas-y, toi aussi, fais quelque chose. Mais d'abord, bon, j'ai relevé l'adresse e-mail de la mission, bon, mentionnée dans le livre, et je leur ai envoyé un mail disant, voilà, êtes-vous connu en Belgique ? Je vois que vous avez des bureaux en France, en Suisse, en Allemagne, mais en Belgique, qu'en est-il ? Ils m'ont répondu, ah non, on n'a personne. Bon, alors, j'ai un peu donné mon curriculum vitae, etc. Bon, j'ai demandé si je pouvais les représenter. Ils ont dit oui, ok, ça va. Alors, pour l'instant, je suis tout seul. Bon, il n'y a pas de comité, il n'y a rien, il n'y a pas de compte en banque. Voilà. Il y a juste moi. Je prie pour que Dieu m'envoie aussi des partenaires bon, hein, pour soutenir l'œuvre en Belgique, qu'on puisse créer un comité, avoir un compte en banque. Bon, tout ça, ça viendra en son temps. Si vous pensez, quand je vous aurai tout expliqué, que Dieu vous appelle à le faire, priez et puis dites-le-moi. Qu'on fasse équipe, si c'est votre cas, bon, moi je prie que Dieu le fasse, mais je ne sais pas qui l'enverra, bon, hein. En bref, bon, qui est ce monsieur Tcheco ? C'est un hindou, un indien plutôt, du sud de l'Inde. Alors, il faut savoir que dans le sud de l'Inde, il y a beaucoup d'églises. Le sud de l'Inde a été évangélisé il y a déjà 2000 ans. L'apôtre Thomas y est allé. Il a fondé des églises. Le mouvement a continué pendant les quelques premiers siècles, et donc comme ça, il y a eu toute une région qu'on appelle le Kerala, tout à fait à la pointe sud de l'Inde, qui a été bien évangélisée. Il y a des zones où il y a 30 ou 40% de chrétiens. Bon, hein. Et puis, avec le temps, eh bien, comme partout, l'Église a adopté des formes assez proches du catholicisme, et donc là, le zèle missionnaire s'est éteint, et l'Évangile n'a jamais pénétré plus au nord de l'Inde. là, qui sont restés dans les ténèbres du paganisme avec leurs centaines de dieux et de déesses auxquels ils vouent un culte. L'islam est venu aussi. Donc, il y a plus ou moins 15% de musulmans dans l'Inde du Nord. Et puis, le 19e siècle, c'est le grand essor des missions. Donc, beaucoup de missionnaires européens se lèvent pour aller partout dans le monde, y compris dans l'Inde du Nord, mais ils n'ont pas eu beaucoup de résultats, tellement cette forteresse spirituelle de l'hindouisme était fortement, les gens étaient tenus par leurs idoles. Bon, hein. L'Inde du Nord était très peu ouverte à l'évangile. Il y a eu quelques conversions, mais les églises restent en petit nombre. Bon. Et c'est surtout dans certains secteurs où ils n'étaient pas vraiment dans l'hindouisme, mais plutôt un peu comme en Afrique, où ils croient en un Dieu unique. Là, l'évangile a pénétré, mais bon. C'est plutôt à l'est, au nord-est. Bon. Comment dans la plaine du Gange, très peu de fruits. On estime qu'il y a en tout et pour tout 0,5% de chrétiens, y compris dans les zones où l'évangile a bien pénétré. Donc, vous voyez, hein, c'est pour vous dire qu'ailleurs, c'est peut-être à 0,01. Bon, hein. Mais enfin, voilà. Un jour, Jossi, au début de sa vie, il voulait réussir, être un grand homme d'affaires comme son grand-père. Son grand-père était un chrétien très respecté, qui dirigeait une entreprise, qui faisait de gros bénéfices, honnêtement, mais bon, et qui en redonnait aussi une bonne partie pour l'œuvre de Dieu. Et je dis, moi je vais faire aussi comme papy, voilà, je vais devenir un homme d'affaires qui réussit, et je donnerai beaucoup d'argent au Seigneur, comme ça il sera content. Ça c'était son idée. Et un jour, pour ses affaires, il est parti en Inde du Nord. Et là, il a été choqué de ce qu'il voyait. Vers une telle misère, et physique, sociale, et spirituelle, à tout point de vue. Bon, il a été appelé par Dieu à se lever pour changer les choses dans son propre pays. Mais bon, dans une zone où ils ne parlent pas la langue, bon, parce que l'Inde du Sud et l'Inde du Nord, ce sont deux mondes tout à fait différents. C'est pour ça aussi que l'Évangile a eu du mal à pénétrer du Sud vers le Nord. La race, la culture, la langue, le climat, la nourriture, tout les différencie. Ce sont deux mondes tout à fait à part. Et donc, il a fallu qu'il s'adapte à l'Inde du Nord. Bon, hein. Et puis, bon, il est resté là un certain temps, il a trouvé quelques chrétiens avec qui ils ont commencé à prier dans un petit groupe. Et l'événement clé, c'est une nuit de prière où ils étaient à deux, dans une Jossie, et un ami suisse qu'il avait rencontré et qui est devenu responsable de la mission en Europe, Stefan Hofer. Et cette nuit-là, ils ont reçu un message de Dieu qui leur disait, voilà, en 2030, il y aura dans cette région 100 000 nouvelles églises. Allez-y et commencez le travail. C'est ce que Dieu a dit dans le cœur de Jossi, c'est ce que Dieu a dit dans le cœur de Stéphane. Ils ne savaient pas ce que Dieu avait dit à l'un ou à l'autre. C'est après qu'ils se sont rencontrés, Dieu m'a dit, ceci, tiens, moi aussi. Bon, hein. Là, ils ont eu confirmation que cette mission venait bien de Dieu, puisque séparément, bon, ils priaient, mais bon, hein, sur un toit, mais sans se communiquer l'un à l'autre. Et puis, voilà. Ils se sont dit, ok, ça va marcher. Alors, ils ont rassemblé quelques chrétiens, puis ils ont commencé à les former. Ces chrétiens étaient pas très motivé au départ, mais bon, quand ils ont commencé à croire que Dieu avait une vision pour leur pays, mais ils se sont levés, ils ont commencé à implanter de nouvelles églises. Parce qu'ils parlaient la langue, ils connaissaient la culture, le climat, tout, ils étaient chez eux. On ne pouvait pas dire, c'est une religion de l'homme blanc, Bon, ce sont les Hindous qui la portent. Ces Indiens sont nos partenaires. Notre rôle comme mission consiste simplement à les former, à les soutenir financièrement, parce que bon, s'ils renoncent à leur travail séculier, s'ils en ont un, pour passer par un an d'études pour se former, et puis pour aller implanter des églises, il leur faut un soutien qui coûte beaucoup moins cher en Inde que chez nous d'ailleurs, comme la vie est beaucoup, beaucoup moins chère là-bas. Donc nous formons, nous soutenons financièrement et nous prions pour le travail. Le résultat, depuis 21 ans que Jossie et Stéphane ont commencé, eh bien, il y a 30 290 églises qui ont été fondées. 1 million de baptisés. Ce sont les chiffres de fin 2018. Et chaque année, je reçois... Bon, chaque année, ça fait que 2 ans, mais bon, chaque année, il y a un rapport annuel qui indique les chiffres de nouvelles églises fondées, les chiffres de centres de formation qui existent, et on voit une croissance remarquable. On a soumis d'ailleurs à des mathématiciens en disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce graphique ? Et sans savoir ce que Dieu avait dit, ces mathématiciens nous disent, ben, à ce rythme-là, en 2030, vous atteindrez les 100 000 églises. Bon, voilà, quand les mathématiques et Dieu sont d'accord. Donc, c'est une mission où on n'envoie pas de missionnaires. Si vous voulez y aller, vous pouvez faire un voyage touristique. Bon, on fait ça aussi. Si les chrétiens d'Europe peuvent aller voir sur place les personnes faire du travail, on a des choses à leur montrer. Vous pouvez y aller, mais à vos frais, bon. Hein. Mais ceux qui y vont peuvent témoigner que oui, sur le terrain, c'est bien réel. Bon, moi, je ne suis pas encore allé, je ne sais pas si j'irai un jour, mais bon, voilà. Mais sinon, on n'envoie pas de missionnaires européens. Quand ils y vont, il faut qu'ils apprennent la langue, etc. Bon, il reste 3 ou 4 ans sans instrument utile, et puis c'est seulement après. Ben, nous, on emploie des gens sur place qui savent déjà tout ça et qui sont beaucoup plus efficaces que des étrangers. Nous avons donc 54 centres de formation où des gens viennent pendant un an pour recevoir des doctrines chrétiennes fondamentales et aussi pour apprendre à écouter Dieu, à prier et pour s'attendre à ce que, à la fin de cette année, Dieu leur ait montré clairement où ils devraient aller après. Et la plupart de ceux qui sortent savent en sortant, moi Dieu m'envoie dans tel village où il n'y a pas encore d'église. Et croyez-moi, ça marche. Maintenant, je ne dis pas que c'est toujours facile. Il y a beaucoup d'opposition. Je raconte un témoignage. Un de nos jeunes qui sont sortis de 54 centres de formation, on en aura 58 si Dieu le veut en 2020, parce qu'on veut en ouvrir plus, enfin, bon. Donc ce jeune sort, il va dans le village que Dieu lui a montré, il commence à évangéliser. Et tout le monde lui dit « Non, non, ça va, merci, on n'a pas besoin de ça, nous avons nos yeux, tout marche très bien. » Pas de vous déranger avec ça, allez-vous-en. Voilà. Aucune porte ouverte. Pourtant, il était convaincu que Dieu l'avait dit, c'est là que tu dois aller. Voilà. Il revient auprès du petit groupe qui le soutenait, qui priait pour lui. Et bon, il relate son échec apparent. Et le petit groupe conclut, ben, il n'y a pas d'échec pour Dieu. C'est juste que le temps n'est pas encore venu. On va continuer à prier. Et pendant 4 mois, ce petit groupe a prié pour le village en question. Au bout de 4 mois, Dieu dit à l'implanteur, ok, maintenant c'est bon, tu peux y retourner. Dieu parle. Vous croyez ça? Bien sûr, toute cette doctrine tend dans la Bible. Dieu ne parlera pas pour vous révéler une nouvelle doctrine, ça non. Il peut vous parler pour dire quoi faire, pour vous, sa vie. Et donc, il retourne dans le village que Dieu lui a montré. Quand il arrive, il dit, bon, ok, et maintenant, Seigneur, je fais quoi? Dieu lui dit, tu vas à cette porte-là. Là, ils ont besoin. Ils vont te recevoir. Ah bon, ok. Il va à la porte que Dieu lui montre, et puis, et voilà, je suis revenu. Est-ce que je peux vous aider? Avez-vous un problème? Et la famille, elle lui dit, oui, nous avons quelqu'un qui va mourir. On a tel prêtre hindou, mais ça n'a rien changé. Si votre Dieu existe et qu'il peut faire quelque chose, on veut bien essayer. Alors bon, il s'approche du malade, il prie pour lui au nom de Jésus, et le malade est guéri. Ça, ce sont les signes du royaume, c'est promis à la fin de l'évangile de Marc. Là où l'évangile n'est pas connu, là où les apôtres vont, où les évangélistes des temps modernes, Dieu signale que, hé, le roi c'est lui, hein. C'est pas les dieux et déesses, là bon, c'est lui. Toute la famille est venue au Seigneur. Les voisins sont venus au Seigneur. Et puis c'est comme à l'île de Malte, quand ça s'est su, d'autres familles sont venues aussi apporter leurs malades, on prie pour eux. Bref, voilà, en quelques mois, 90% du village est devenu chrétien. Ça, c'est ce que Dieu fait. Nous, on assiste à ça, émerveillés, de loin, on entend les rapports. Parfois aussi, il y a des pasteurs qui sont frappés, qui sont... Bon, la persécution existe, on le sait. C'est pourquoi il faut prier davantage, toujours, que Dieu garde ses serviteurs. Les centres où nous formons ces implanteurs ont aussi, je ne sais pas dire aussi ou d'abord, un rôle social. Pour qu'ils puissent exister et être acceptés par les autorités, il faut qu'ils présentent une utilité publique. Dans un centre, vous trouvez soit une école, ou un dispensaire médical, ou un centre de formation professionnelle, où on forme les gens à des métiers qui seront utiles sur place, et grâce auxquels les chrétiens pourront aussi soutenir financièrement leur église, par ailleurs, en forme de menuisiers, en forme d'électriciens, en forme de maçons, en forme des couturières, en forme des artisans. Pour les hommes et pour les femmes, on tâche de répondre aux besoins concrets des gens à travers ces centres. Il y a des endroits où on accueille des SDF, des endroits où on accueille des malades mentaux, des gens qui ne savent plus où aller. Bon. Des femmes battues, des prostituées, à qui on apprend à vivre différemment, à trouver un mari, à se marier. Bon. Alors, tous ceux qu'on aide ne deviennent pas forcément chrétiens, mais beaucoup le deviennent. Bon. Mais, aux yeux des autorités, voilà, s'ils ferment ces centres, même s'ils n'aiment pas les chrétiens, mais la population sera mécontente parce qu'ils disent, il n'y a personne d'autre qui fait ça pour nous. Et alors, quelque part, dans un centre, il y a une classe où on forme les futurs implanteurs. On ne le dit pas aux autorités. Ça se fait discrètement, mais certainement. Ainsi, chaque année, notre mission en part forme actuellement 1100 nouveaux implanteurs. Et bon, il faut accroître le rythme. parce que le but sera atteint et pour ça. Donc nous aurons 100 000 églises en 2030 et pour ça il faut encore ouvrir plus de centres pour former plus de gens, des hommes et des femmes. Parce qu'il y a aussi des implanteuses d'églises, ça existe. Bien, alors, tout cela est en bonne voie et j'en bénis le Seigneur. Maintenant, il faut de l'argent parce que, bon, pour le soutien d'un jeune qui se forme au ministère, on le soutient à plein temps, à 100% pendant 3 ans. Ça coûte plus ou moins 100 € par mois. Avec ça, on peut vivre en Inde décemment. Et puis, la 4e année, le soutien des croix, parce que normalement, l'église locale existe déjà. Et elle commence à soutenir son pasteur. Et au bout de 7 ans, le soutien dégressif s'arrête tout à fait et l'église est capable de payer son pasteur. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces nouvelles églises? Souvent, des jeunes se lèvent pour dire « Moi aussi, je veux devenir un planteur. » Voilà. C'est comme ça qu'ils viennent dans un centre. Et puis, bon, quand leur pasteur n'est plus soutenu, ben c'est eux qui peuvent recevoir le soutien à sa place. Et ainsi, voilà. Ça continue, ça fait boule de neige. Voilà. J'aimerais que la Belgique, que les chrétiens évangéliques de Belgique se voient au mouvement. J'ai particulièrement à cœur une action qui consiste à munir les pasteurs de vélos. Parce que souvent, quand ils ont fondé leur première église, ils découvrent le village d'à côté et un troisième ont aussi besoin. Et Dieu ouvre les portes et puis ils se retrouvent parfois, au bout de 7 ans, pasteurs de 2, 3, 4, 5, 6 églises. Et ça veut dire que bon, ils habitent dans un rayon de 15, 20, 30 kilomètres quand il faut faire tout ça à pied. Alors nous avons une action pour équiper les pasteurs en vélo pour qu'ils puissent évangéliser plus de villages. Voilà. C'est ce que je propose, que la Belgique se spécialise pour faire ça. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de compte en banque, donc vous pouvez soit me remettre l'argent, j'ai une petite caisse à la maison, bon, ça sert à payer les frais pour les payer les stands lors de conventions, ou les frais d'envoi de littérature, et quand j'ai trop, ben, j'envoie à Rempart France, là il y a un compte en banque qui est mentionné, donc je mettrai des brochures ici sur la table quand on sera dégagé, venez vous servir, c'est gratuit, et il y a dedans un talon de réponse si vous voulez vous engager. Voilà. Faites donc ce que Dieu vous montre. Moi, je ne dirai pas à votre bon cœur, parce qu'on sait que le cœur de l'homme est mauvais naturellement, mais je dirais, faites comme Dieu vous montre de faire. Qu'il vous bénisse chacun. Ah oui, il y a aussi une petite vidéo que j'avais oublié de la faire passer. Voilà, c'est Jesse lui-même qui nous montre un peu ce qu'il fait et qui nous appelle à entrer dans ce travail.
Au moment où nous l'avons accepté comme sauveur, je crois que la seule raison de vivre d'un chrétien est d'accomplir l'ordre missionnaire de Jésus. Si l'objectif de Dieu était de nous emmener au ciel, il l'aurait fait au moment où nous l'avons accepté comme sauveur ou lors de notre baptême en un clin d'œil. Mais il n'agit pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a une mission à nous confier ici et maintenant. Oui, pour vous aussi. Je pense que la plus grande injustice dans ce monde, c'est que beaucoup de gens ont la possibilité d'entendre parler de l'amour de Dieu chaque fois qu'ils le souhaitent, alors que d'autres n'en ont jamais entendu parler et n'ont aucun moyen de recevoir son pardon, même s'ils le désirent. C'est la plus grande injustice parce que les conséquences durent éternellement. C'est la raison pour laquelle Empart se focalise sur l'Asie, car c'est là que se trouve le plus grand nombre de personnes non atteintes et également les plus pauvres. C'est là aussi qu'il y a beaucoup d'injustices sociales. Dieu nous a appelés à œuvrer pour que leur vie soit transformée. C'est la vision d'Empart, des vies et des communautés transformées. Notre manière d'agir est de former des leaders indigènes qui parlent la langue, connaissent la culture, vivent dans les mêmes conditions et le même contexte que les gens qu'ils désirent atteindre, comme Jésus l'a fait. Il a choisi des gens locaux qui parlaient la langue, comprenaient la culture et étaient en contact avec la communauté. Il les formait, les équipait et les envoyait pour qu'ils accomplissent la même mission. Rempart suit le modèle de Jésus. Nous formons nos collaborateurs et pendant une année, en petits groupes, ils vivent avec l'un de nos leaders et sa famille. Durant cette période, ils sont équipés spirituellement et pratiquement. Mais l'objectif principal de cette formation est le développement du caractère. Si quelqu'un échoue, ce n'est pas par manque de connaissances, mais à cause de son caractère. Pour nous, l'ordre missionnaire de Jésus de faire des disciples va de pair avec son commandement d'aimer son prochain. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Si on les sépare, cette pièce n'a plus de valeur. Jésus était capable de pourvoir aux besoins physiques des gens tout en partageant l'évangile. Nous ne pouvons ignorer notre responsabilité envers les pauvres et les perdus. Nous devons être la lumière qui chasse les ténèbres. C'est ce que l'évangile fait. Nous devons être le sel qui donne de la saveur au travers de nos bonnes œuvres. Ce sont ces convictions-là qui permettent à Rempart de partager l'évangile, de mettre en place des programmes d'éducation, d'eau potable, de soutien aux veuves et aux orphelins, de soins médicaux. Nous prenons soin des malades mentaux qui errent dans les rues, creusons des puits, portons secours aux enfants, aux femmes exploitées, abusées, prises au piège de la prostitution. On leur propose une formation professionnelle qui leur permet de retrouver leur dignité. On les aide à trouver un conjoint et à se marier, à entrer dans une nouvelle vie. Tout cela est bien plus encore est fait avec la collaboration des églises locales. Notre but est de voir 100 000 communautés transformées d'ici à 2030. Pour atteindre ce but, nous devons former 35 000 jeunes hommes et femmes. Ils ont besoin d'être soutenus pendant les 7 premières années de leur ministère. La moisson est abondante et Dieu est en train de lever des collaborateurs indigènes engagés et passionnés. Mais ils ont besoin de notre partenariat. Je vous invite donc à vous joindre à nous en priant, en donnant, en allant les encourager et devenir leur ambassadeur. Nous avons besoin de votre partenariat. Voulez-vous vous engager? Si c'est le cas, lorsque vous serez dans l'éternité, vous serez tellement heureux de l'avoir fait.